ton bise. Réveille ton bise, tam tam tam. Réveille ton bise. Hello et bienvenue dans le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer leur entreprise, trouver plus de clients sans s'épuiser à la tâche ni subir leur quotidien et à utiliser le podcast comme un levier d'opportunité business. Si vous êtes à la recherche de conseils, astuces et inspirations en entrepreneuriat, marketing digital, podcasting et stratégie d'entreprise pour réveiller votre bise, eh bien vous êtes au bon endroit. Je vous réveille tous les lundis matin à 6h, seul ou avec des invités, pour vous aider à accomplir tous vos objectifs, vivre votre meilleure vie et développer le business de vos rêves. Prêt à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute ! Salut Lauriane.
Salut Justine.
Comment tu vas?
Ça va bien.
Je suis ravie de t'avoir dans le podcast aujourd'hui. Je suis hyper contente, tout en sachant que je crois qu'on a un sujet hyper impactant pour aujourd'hui. Je suis vraiment contente de t'avoir derrière le micro aujourd'hui.
Bah écoute, moi aussi je suis super contente. J'adore ton podcast, j'écoute depuis longtemps. Il est vraiment super qualitatif. Donc c'est un véritable honneur pour moi d'être là aujourd'hui.
Merci beaucoup. Sans plus attendre, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît?
Alors, bon, il y a pas mal de choses à dire sur moi, donc je vais essayer de faire court. Donc, moi, je m'appelle Lauriane. Je suis experte en stratégie de contenu et en email marketing. J'ai un podcast qui s'appelle OMA, qui parle aux mamans entrepreneurs et aussi avec la dimension multiculturelle. Donc, c'est un podcast qui existe depuis trois bonnes années maintenant. Et j'ai aussi créé une communauté, donc c'est un petit peu un écosystème autour du podcast. Il y a la communauté aussi pour les mères entrepreneurs, leur donner... Voilà, c'est un espace d'entraide pour les mères entrepreneurs, voilà.
Génial, parfait. Aujourd'hui, on va parler d'email marketing avec notamment cette règle des 3C. Alors franchement, je l'ai sortie de mon chapeau parce que j'étais là genre, donc il faut captiver, il faut connecter, il faut convertir, bim bam boum, cerveau de marketeuse, c'est la règle des 3C, je l'ai sortie de mon chapeau. Je trouve que c'est assez cool et impactant et ça permet aussi de se souvenir que en email marketing, pour que ça fonctionne, il faut captiver, connecter et convertir pour avoir des emails infaillibles. Est-ce que tu es prête à entrer dans le vif du sujet pour nous dévoiler tout ça?
Allons-y.
Ok, alors on va commencer avec une question fondamentale. Pourquoi est-ce que c'est essentiel de mettre en place une stratégie d'email pour son business?
Ok, alors en fait, déjà, il faut se dire que c'est déjà super important d'avoir une mailing list. C'est la base, c'est pour commencer. Parfois, je me dis, mais en fait, est-ce qu'on peut citer une marque, une entreprise qui fonctionne super bien et qui n'a pas de newsletter, de mailing list? Non, même Coca, je veux dire, tout le monde a...
C'est vrai.
Voilà. Donc déjà, c'est une base, c'est super important. Ça pérennise notre communication. Ça professionnalise en fait notre communication et ça la sécurise aussi. Parce que comme on le sait et comme on a déjà pu le voir, que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn, on peut perdre momentanément ou définitivement accès à nos comptes. Là, on a notre mailing list et voilà. Donc déjà, c'est pour commencer, c'est déjà super important d'avoir une mailing list. Ensuite, après, c'est super important aussi d'avoir une stratégie. Le but, c'est pas juste d'envoyer des emails juste pour envoyer. Notre objectif à la fin, c'est quand même de vendre. Donc, c'est pour ça qu'il faut en amont créer sa stratégie. Donc, pour répondre à ta question, c'est ça en fait. C'est important d'avoir une mailing list et c'est important d'avoir une stratégie. Donc, on fait une stratégie exprès pour ce canal de communication-là, comme on peut le faire pour ces autres canaux, comme ces réseaux sociaux, par exemple.
Ok, super. Alors du coup, comment est-ce qu'on peut mettre en place sa stratégie d'email? Là, vraiment, on démarre avec cette idée de pouvoir créer des emails, d'envoyer une newsletter. Donc, de pouvoir raconter des choses qui vont, encore une fois, captiver, connecter, convertir. Comment est-ce qu'on met en place, du coup, cette stratégie?
Ok. En fait, ça va être comme avant de se lancer sur n'importe quel canal de communication, il faut se définir ses objectifs, en fait. Pourquoi est-ce que je lance cette newsletter? Qu'est-ce que je vais faire avec mes emails? Voilà. Donc, se poser et voir ses objectifs. Ça va être la première étape. Ensuite, comme pour tout le reste, je dirais, il y a aussi la cible. Finalement, je vais faire des mails, mais à qui est-ce que je vais l'envoyer, les envoyer? Ce qui est super dans la mailing list, c'est qu'on peut la segmenter. Donc, je peux avoir plusieurs cibles avec un seul et même outil de marketing par email. Donc, définir un petit peu à qui je vais écrire et pourquoi pas segmenter sa base de contact email. Donc, objectif, cible, créer aussi un freebie. Donc, bon, après, il y a plusieurs noms qu'on peut donner à lead magnet. Enfin, créer quelque chose qui a de la valeur et qu'on va donner aux personnes qui vont s'inscrire en échange de leur adresse mail. Donc, ça va être quelque chose qui va introduire, en fait, nos offres, qui va introduire ce qu'on a à vendre. Donc, je dirais que donc, pour mettre en place la stratégie d'email, on commence donc par les objectifs. Ensuite, on dresse le portrait robot de la cible. On a vraiment une idée claire de à qui on écrit, quels sont ses intérêts. Et ensuite, on crée une valeur qu'on va lui offrir pour lui donner envie de s'inscrire et aussi commencer à créer la relation de confiance qu'on veut créer avec elle. Donc, une fois qu'on a déjà fait ces trois choses-là, on va aussi réfléchir à notre ligne éditoriale. Qu'est-ce que je vais raconter dans mes mails? Et aussi, comment je vais le faire? Est-ce que, après, l'idée, c'est aussi que ce soit cohérent avec le reste de notre communication. Donc, comment est-ce que je vais parler? Est-ce que je vais tutoyer? Vous voyez les personnes qui sont abonnées à ma liste. Quelle est la promesse que je vais leur faire? Ma newsletter, c'est la newsletter qui permet quoi? C'est la newsletter. Quoi? Qu'est-ce que ça leur apporte en fait finalement? On se dit, quelqu'un qui ne nous connaît pas, pourquoi est-ce que cette personne viendrait s'inscrire à notre newsletter? Donc, c'est de définir tout ça. Et ensuite, bien sûr, de passer au calendrier éditorial. Donc, ça va être, oui, j'ai défini comment je parle, quand est-ce que je parle de ces choses-là. Donc, garder avec soi toujours son calendrier commercial, bien sûr. Là, je ne sais pas trop quand l'épisode va être mis en ligne, mais ça va être le Black Friday. Après, il va y avoir Noël, l'Essonne, l'Épiphanie, la Saint-Valentin, que sais-je, voilà. Donc, si selon notre secteur d'activité, ce qui est pertinent, on a notre calendrier commercial avec nos lancements, etc. Eh bien, notre calendrier éditorial de notre newsletter, d'envoi de nos mails, il doit coller à ce calendrier commercial-là. Donc, une fois qu'on a déterminé tout ça, il faut bien aussi garder en tête que c'est vraiment intéressant et important d'alterner les newsletters et les emails de vente. Donc, on va envoyer des newsletters pour faire du nurturing, comme on appelle, c'est-à-dire entretenir la relation qu'on a avec nos prospects et nos clients, qu'on reste dans leur tête, en fait, donc qu'ils pensent à nous, etc. Et ensuite, les emails de vente, ben, bien sûr, là, c'est quand on veut vendre et quand on a des objectifs commerciaux derrière.
Parfait. Ça paraît quand même assez énorme quand même à mettre en place. En tout cas, j'imagine que les personnes qui sont en train de nous écouter sont en train de se mettre un peu en PLS, genre OK, mais est-ce que c'est mon moment pour lancer ma newsletter? Est-ce que c'est le moment opportun? Est-ce que clairement, il y a un moment qui existe dans sa vie entrepreneuriale pour lancer sa newsletter?
C'est une super question. Et
Merci.
moi, je dirais que il y a un. Je dirais, en fait, je prendrais la chose à l'envers. Je dirais qu'il n'y a que un moment où c'est trop tard, où il ne faut pas lancer sa newsletter. C'est le jour où on a quelque chose à vendre, en fait. Genre, voilà, je veux dire, si tu lances la newsletter le 24 décembre ou le 25 décembre, voilà, si tu veux vendre pour Noël, c'est pas la peine. C'est le pire moment. Quant au meilleur moment, pour moi, je dirais, c'est vraiment en amont, et je dirais même, c'est quand on n'a pas encore quelque chose à vendre. Donc, on crée déjà comme une liste d'attente, en fait, ou carrément une liste d'attente, et on commence déjà à créer du lien avec les personnes qui sont inscrites, à les teaser, à les réchauffer. Comme ça, quand on a quelque chose à vendre, eh bien, ce sont des personnes qui sont déjà prêtes, qui ont peut-être déjà suivi le processus, les coulisses, etc., et qui sont plus à même de passer à l'action que des personnes froides qui ne nous connaissent pas et un beau jour on débarque comme ça, salut, j'ai quelque chose à te vendre, bah non, c'est un.
Totalement, parfait. Je ne sais pas pour toi, mais non, moi, la newsletter, c'est quelque chose que j'ai procrastiné pendant très longtemps. Au même titre que beaucoup de personnes procrastinent de lancer leur podcast, moi, j'ai tourné aussi autour du pot assez longtemps pour lancer ma newsletter. Et pourtant, à ce moment-là, je disais beaucoup aux entrepreneurs que j'accompagnais, mais oui, lance ta mailing list, ça va sécuriser, c'est hyper important, nanana. Et moi, je n'appliquais pas mon propre conseil, le cordonnier plus mal chaussé, comme d'hab. C'est assez fou quand même toute la montagne qu'on peut se faire en se disant par quoi je commence, comment est-ce que je pose ma stratégie, est-ce que c'est le bon moment, qu'est-ce que je vais raconter, etc. Ce qui permet de faire une transition assez logique sur le premier C qui est captiver. Comment est-ce qu'on crée des emails justement qui captivent son audience pour se dire ok, c'est bon, maintenant j'ai compris que c'est le bon moment, je sais ce que je vais raconter, maintenant je veux vraiment en fait que les gens s'abonnent à ma newsletter et je veux vraiment qu'ils soient au rendez-vous au même titre où moi je vais l'envoyer X fois par mois.
Alors en fait déjà, avant de commencer à envoyer tes mails, il faut bien que tu aies des personnes à qui envoyer ces mails. Donc comme je disais juste avant, le freebie ou le lead magnet, en fait, il faut vraiment arriver à créer le parfait lead magnet. Ensuite, il ne faut pas, si on a des capacités, des compétences en rédaction, il ne faut pas hésiter à s'en servir. Donc, pour créer des emails captivants, là, je parle de storytelling, par exemple, et pour faire, pour raconter des histoires.
Okay.
Ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup dans les emails. Et utiliser donc ces techniques-là de storytelling, de copywriting, si on a aussi ces compétences-là, pour captiver l'attention des personnes qui nous lisent. Là aussi, on peut avoir tendance à penser que « Oh là là, mon mail, il est trop court. Est-ce que ça vaut vraiment l'intérêt de l'envoyer, etc. ?» Mais là aussi, c'est plus intéressant la valeur, le contenu, que la longueur. Donc, il y a certaines personnes qui auront justement la flemme de nous lire si notre email est trop long. Donc, voilà. Pour captiver les personnes, vraiment parler des sujets qui les intéressent, essayer d'y mettre la forme en racontant des histoires et surtout rester authentique parce que c'est aussi ce qu'on vient chercher dans un canal plus privilégié comme les mails, quoi.
Tout à fait. Du coup, on arrive sur le C de connecter. Comment est-ce qu'on peut justement établir une connexion authentique avec son audience au travers des emails ?
J'adore quand je reçois des newsletters qui commencent par mon prénom. On me parle directement. Et c'est-à-dire que parfois, j'ai beau savoir que qu'on est plusieurs dizaines, centaines, milliers de personnes à recevoir l'email, je le prends quand même pour moi. Donc, je trouve ça encore dommage que parfois, quand je m'inscris à des newsletters sur des sites e-commerce, il n'y ait pas cette personnalisation-là. C'est dommage. Donc, commencer déjà, je pense, par mettre le prénom. C'est déjà la base. Et ça fait toujours son petit effet, même si on connaît déjà le truc. Donc, pour connecter, on commence par ça. Ensuite, je dirais aussi d'être régulier pour créer un véritable rendez-vous. On peut se dire aussi pareil, oh là là, quelle pression, je vais devoir écrire toutes les semaines, je ne sais pas quoi dire, etc. Mais la réalité, c'est qu'être régulier, ce n'est pas écrire tous les jours, ce n'est pas écrire toutes les semaines. Un email mensuel, c'est déjà être régulier si on ne saute jamais un mois. Donc, être régulier, créer ce rendez-vous que nos lecteurs, en fait, nos abonnés, attendent. Donc, tout ça, ça aide à créer du lien, en fait, avec les personnes qui nous lisent. Il y a aussi la tonalité qu'on va employer. Si on reste très distant, vous voyant, après, ça dépend si c'est du B2B, si on vend, voilà, ça dépend de notre secteur d'activité. Mais si on veut pouvoir créer quelque chose, une relation avec les personnes qui nous lisent, c'est bien d'adopter une tonalité plus chaleureuse, un peu plus informelle pour que, voilà, on est entre nous et on peut, vous pouvez me faire confiance et puis plus tard acheter mes produits ou faire appel à mes services. Je dirais aussi que certains contenus favorisent la connexion, comme par exemple quand on partage des anecdotes personnelles, des choses qui nous sont arrivées à nous. Ça aussi, ça favorise la connexion. Aussi de rester, donc on parlait d'authenticité, mais je dirais aussi de l'éthique, parce que on connaît un petit peu parfois des personnes qui peuvent utiliser des techniques de marketing un peu douteuses, etc. Si on veut créer un lien authentique avec nos abonnés, on n'utilise pas ces techniques-là. On reste dans une communication qui est éthique et qui nous ressemble. Et je dirais aussi qu'on demande pas mal, on incite en fait les lecteurs à nous faire des retours, à nous répondre, à ce qu'on voilà, qu'il y ait des échanges entre nous, voilà. Donc pour créer ce lien-là, dire bah répondez, n'hésitez pas à répondre.
Oui.
On a tellement été habitués aux grosses bases d'emails comme celle de sergent major ou que sais-je, j'y pense parce que j'ai des enfants, mais où c'est l'adresse est no reply, ne pas répondre. On a été conditionné à ça. Donc les gens sont beaucoup dans la consommation des newsletters, mais surtout quand on est solopreneur, eh bien justement ne pas hésiter à dire mais répondez, c'est moi qui suis derrière, ou même si c'est pas nous, même si c'est quelqu'un qui est chargé de la rédaction, mais voilà, c'est toujours une petite équipe, il y aura toujours une personne pour répondre. Donc ne pas hésiter aussi à inciter les gens à répondre pour qu'il y ait une correspondance en fait qui se crée entre eux et nous. Et le petit bonus, je dirais aussi, c'est de garder de l'exclusivité pour les abonnés à sa newsletter. Donc, on sait que si on est sur les réseaux sociaux, sur le podcast, ça ne va pas forcément être les mêmes contenus qu'on va avoir dans la newsletter. Donc, là, il n'y a rien de tel quand même. On se sent privilégié d'être dans la newsletter et d'avoir certaines informations, certains éléments de coulisses en exclusivité par rapport aux autres.
Trop bien, merci beaucoup. J'ai quand même envie d'ajouter que, notamment pour la partie captiver, c'est aussi important de travailler l'objet de son email. Ne pas hésiter justement à raccourcir un peu son objet, à ce que ce soit des phrases courtes, pas trop de mots, des choses assez impactantes. Et du coup, pour connecter, ne pas hésiter non plus à mettre le prénom de la personne dans l'objet d'email, par exemple. Hyper bon conseil d'inciter à répondre à l'email parce que bah, du coup, un email, on a l'habitude, ça va dans les deux sens. Donc vraiment, n'hésitez pas à éduquer votre audience, à prendre l'habitude de pouvoir vous répondre, de pouvoir réagir à ce que vous envoyez, à vous poser des questions en direct, même si besoin. Et puis voilà, j'ai envie de passer au troisième C, qui est convertir. Comment justement, après avoir captivé et connecté avec son audience, on peut l'inciter à passer à l'action, donc à l'action répondre ou à l'action répondre à ce formulaire-là, prendre un rendez-vous, mais aussi surtout passer à l'achat après avoir lu un mail. Comment est-ce qu'on peut faire ça?
Ce qui est super important à faire et que beaucoup négligent, je sais que j'ai moi-même négligé ça pas mal au début avec ma mailing list, c'est la segmentation en fait. On a tendance à envoyer des mails à tout le monde et après on s'étonne de pas forcément avoir les retours qu'on veut, mais c'est vraiment pertinent de segmenter son audience selon différents critères et notamment leurs intérêts et aussi leur comportement. Si la personne a déjà cliqué sur le lien vers la page de vente une ou deux fois, elle a beaucoup plus de chances d'être convertie qu'une personne qui n'a jamais cliqué sur ce lien-là.
Okay.
Donc, en fait, ça nous permet aussi d'économiser nos efforts, finalement, de prévoir dans notre logiciel d'email marketing une séquence qui sera adressée spécifiquement aux personnes qui ont déjà fait tel ou tel geste,
action, clic.
Voilà. Ça, c'est super important parce que finalement, la personne qui n'aura même pas cliqué sur le lien vers la page de vente, si ça se trouve, n'est absolument pas intéressée ni prête pour ce qu'on a à vendre. Et lui envoyer 10 000 mails, ça fera que l'agacer, ça ne nous apportera rien. La personne va se désabonner alors qu'elle aurait pu passer à l'achat 3-6 mois plus tard. Donc vraiment, pour convertir, moi je dirais qu'il faut commencer vraiment par segmenter son audience. Ensuite, vraiment utiliser le copywriting. Là aussi, dans les appels à l'action, vraiment faire des... J'ai appris ce terme récemment, c'est le micro-copy. Le copywriting qu'on applique aux petits mots sur les boutons, etc. Essayer de varier un petit peu, pas forcément juste... essayer de sortir des appels à l'action un peu originaux, assez engageants, voire ludiques, pour donner envie de cliquer. Partager aussi certains types de contenus, finalement, parce qu'on aura plus tendance à passer à l'achat après des témoignages, des success stories, des transformations. Donc, ne pas hésiter à partager aussi ce genre de contenu là dans ces mails où on veut faire un appel à l'action. Et le finish, en fait, le final, c'est quand même la page de vente. Parce que ton email peut être aussi magnifique que possible, ton appel à l'action génial, la personne arrive sur la page de vente. Si elle n'est pas irrésistible, ainsi que l'offre, malheureusement, ça va être des efforts perdus. Donc, vraiment apporter aussi beaucoup d'importance à la page de vente, quoi.
Aussi, petite astuce que j'ai appris, parce que de toute façon, c'est toujours du test and learn. Les liens sur lesquels on veut que notre audience clique, ne faites pas. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur, mais en tout cas, un peu ce côté un peu perfectionniste que il faut que le lien soit de la même couleur que sa charte graphique. Non, les gens ont l'habitude de cliquer sur des liens URL bleus. Donc, laissons ces liens URL en bleu. Moi, j'avais tendance à les mettre en rouge. Alors, non seulement d'un point de vue psychologique, le rouge, c'est pas non plus très friendly. Et parce que moi, j'aime le rouge, hein, constamment, ça se voit un peu de partout. Et en fait, j'ai testé que mes liens étaient beaucoup plus ouverts. Et pourtant, même phrase, même mot, hein, vraiment rien changé. Mes liens étaient plus ouverts quand, du coup, le texte était en bleu. L'URL était en bleu. Donc, franchement, il y a des petites choses comme ça. Encore une fois, test and learn, mais c'est le petit conseil que moi je peux vous offrir aujourd'hui.
Super, j'avais jamais pensé, mais tu sais quoi, je vais tester aussi.
Ouais, franchement, à voir. Mais ça a été assez flagrant quand même, hein. En parlant de test and learn, est-ce que tu as observé des erreurs courantes que l'on fait, que l'on peut faire avec ces emails?
Bah déjà, la personnalisation, quand soit c'est pas fait ou alors c'est mal fait, la personne va s'être trompée de champ et avoir mis par exemple nom de famille à la base de prénom. Aussi, ne pas segmenter clairement. Donc, on se retrouve noyé dans des séquences de vente et on est agacé. Alors que on aime bien cette entreprise-là ou cet entrepreneur-là. On aime bien ses produits, peut-être pas ce produit-là d'ailleurs. Mais lors de son lancement, on va recevoir tous ses mails et on va être écœuré de la personne. Voilà, donc je dirais mauvaise personnalisation ou pas de personnalisation, mauvaise segmentation ou pas de segmentation, disparaître aussi hein, pendant longtemps et revenir
Pour
comme si
vendre.
rien n'était, voilà, pour vendre exactement, revenir que quand on a quelque chose à vendre. Ça, les gens se sentent un peu utilisés. Donc, c'est pas top pour le lien justement de confiance qu'on cherche à créer avec les gens.
Et allez, on peut rajouter le fait de ne pas lancer de newsletter. Voilà. Ça, c'est une erreur.
Ça, c'est le pire.
Alors justement, avec tout ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, partons du principe qu'on a donc mis en place la stratégie d'emailing, on a déterminé les objectifs, la cible, la fréquence, le calendrier édito, évidemment la ligne éditoriale avant tout ça. Comment est-ce qu'on s'assure justement que sa stratégie d'email est bien pertinente et efficace au fil du temps? Et surtout, quels pourraient être les indicateurs à suivre pour pouvoir prendre les meilleures décisions?
Il y a déjà les chiffres fournis par le logiciel d'email marketing qu'on va utiliser. Déjà le taux d'ouverture. Est-ce que je travaille assez bien mes objets d'email? Ça donne envie d'ouvrir ou pas? Donc déjà on n'aura jamais, enfin jamais non, un taux d'ouverture de 100% parce que entre les personnes qui ont mis une fausse adresse. Voilà, il y a pas mal de facteurs à prendre en compte, donc on n'aura jamais 100% de taux d'ouverture. Mais si on a moins de. Après, ça dépend aussi du nombre d'abonnés qu'on a. Mais si on a moins de, par exemple, 30%, c'est vraiment. C'est problématique, quoi. Donc, il faut se poser des questions sur les objets d'abord d'email. Est-ce que mes objets donnent assez envie d'ouvrir?
D'ouvrir,
Donc, taux d'ouverture. Après, il y a aussi le contenu, parce que si jamais ils ouvrent une, deux, trois fois, malgré l'intérêt des objets et que le contenu n'est pas intéressant, est-ce qu'ils auront encore envie d'ouvrir? That's the question. Bon, après, ils se désabonneront éventuellement. Ensuite, je dirais aussi le taux de clic, hein, clairement, parce que c'est nos objectifs, finalement. On aime bien envoyer des mails, mais on aime mieux convertir derrière, que ce soit... Après, la conversion, ce n'est pas toujours des ventes, hein, on est d'accord. Hein.
Oui.
Ça peut être des écoutes sur le podcast, des lectures sur le blog, ça peut être des réponses à des formulaires, comme tu disais. Donc, le taux de clic...
Oui.
Ce sont les plus... voilà. Après, il y a tout plein de données à regarder, mais les plus importants, surtout quand on démarre, c'est vraiment le taux d'ouverture et le taux de clic pour commencer. Et après, en termes de retour, moi, j'ai envie de dire que il n'y a pas que les mails de réponse. Moi, j'ai énormément, enfin énormément, j'ai beaucoup de retours en dehors de ma
Ah,
newsletter.
OK.
Par exemple, quelqu'un qui a lu ma newsletter, qui en fait une capture d'écran, qu'il partage en story sur Instagram en me taguant. J'ai eu ça plusieurs fois. Des personnes qui sont abonnées à ma newsletter, mais qui sont en contact avec moi autrement, que ce soit sur mon WhatsApp, parce que ce sont des clients, ou bien des amis même d'ailleurs, ou bien sur LinkedIn, des messages en fait, les personnes qui m'écrivent directement en dehors de la newsletter pour me dire, me faire un retour, j'ai aimé ta newsletter parce que si, parce que ça, voilà. Donc les retours qu'on peut avoir, je dirais sous toutes les formes finalement.
Ok. Et évidemment, le taux de désabonnement, puisque ça aussi, c'est un indicateur à
Oui.
suivre, à voir est-ce que les personnes se désabonnent, entre guillemets, en masse à chaque fois que vous envoyez un email, ou est-ce qu'ils ont plutôt tendance à se désabonner quand vous êtes en période de lancement? Petit tips aussi, si vous êtes en période de lancement, donc vous allez mettre en place des mails, je ne sais pas, d'invitation, de masterclass, des mails de rappel, etc., etc. Il y a des personnes qui ne vont pas vouloir s'inscrire à la masterclass, mais qui vont quand même être bloquées avec les mails d'invitation. Dans ces cas-là, vous pouvez segmenter en mettant à disposition un bouton pour se désabonner uniquement de cette, on va dire, de ce groupe de lancement et pas de la newsletter, on va dire, originelle. Ça, c'est aussi le petit tips pour s'éviter d'avoir des gros taux de désabonnement. Une personne qui n'est, comme tu le disais, pas intéressée à ce produit-là à l'instant T, mais souhaite rester parce que les emails que cette personne-là reçoit une fois par semaine ou tous les 15 jours, une fois par mois, l'intéressent. Donc, continuez de tisser le lien avec. Je crois que je n'ai pas d'autres tips
Et
comme ça en
t'as bien
plus.
fait de le dire. Et aussi, les désabonnements, c'est normal, hein. Ça
Oui.
aussi, ne paniquez pas. C'est absolument normal d'avoir un, deux, selon aussi le nombre d'abonnés que vous avez, c'est
Oui.
absolument normal. Et c'est aussi même tant mieux pour vous, parce que ces personnes-là, si elles partent, après, ça veut... Elle peut, voilà, il peut y avoir, peut-être qu'elles ne sont pas intéressées par les mails, peut-être qu'elles ne sont pas, voilà, pas du tout intéressées par le produit, donc qu'elles ne risquaient pas d'acheter. Mais après, il y a des personnes qui se désabonnent et qui continuent à suivre sur d'autres canaux, donc qui pourraient éventuellement plus tard devenir clientes. C'est pas dit, quoi.
Totalement, totalement d'accord avec toi. Est-ce que tu as une ressource ou un outil à nous partager qui a eu soit un impact positif dans ta vie ou qui t'aide au quotidien ou qui pourrait aider aujourd'hui notre audience?
Bah, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Moi, j'utilise MailerLite pour ma newsletter et j'adore, j'adore. Je trouve ça vraiment super facile à prendre en main, très ergonomique. Il y a énormément de fonctionnalités, même dans la version gratuite.
Oui.
Donc, moi, c'est absolument vers cet outil-là que je dirige les personnes avec qui je travaille sur leur newsletter. Donc, MailerLite, je dirais.
Ok, et eh ben entièrement d'accord avec toi, c'est aussi le logiciel que j'utilise. Est-ce que toi, tu as une ressource à disposition que tu as construite de tes petites mains qui pourrait aider notre audience aujourd'hui?
J'ai réuni toutes, pas toutes, mais pas mal de ressources gratuites que j'ai moi-même produites dans une bibliothèque, une page Notion bien rangée par catégorie, que je l'ai appelée la boîte à succès des mères entrepreneurs.
OK.
Donc, il y a tout plein de ressources dedans. Il y a des vidéos de masterclass que j'ai données. Il y a des épisodes de podcasts.
OK.
Il y a des articles de blog. Il y a des templates, des PDF remplissables. Il y a plein de choses. Il y a plus de 30 ressources. Que ce soit pour créer sa ligne éditoriale, ou sa newsletter, y a pas mal de clés, pour communiquer et mieux tendre vers tendre vers un meilleur équilibre vie pro, vie familiale. Il y a tout ça dedans.
Ok, trop bien. On arrive tout doucement vers la fin de cet épisode de podcast. Est-ce que
Oh,
tu...
déjà.
Oui, déjà, c'est passé vite, hein.
Trop
Comme
vite.
tu es une auditrice visiblement assidue, et ça me touche beaucoup, est-ce que tu aurais envie d'entendre une personne dans le podcast précisément?
Ben, je pense à deux personnes.
Ok, allons-y, soyons fous, c'est le bonus.
J'aimerais entendre Lindsay Bimoila. Elle est géniale, elle fait plein de choses. En fait, elle a un média sur les unions multiculturelles
OK.
et multiconfessionnelles. Voilà, donc
OK.
elle veut vraiment mettre la lumière sur ça. Et elle organise aussi des mariages qui sont exceptionnels.
OK.
Donc voilà, c'est la fondatrice de Zola Média.
OK.
Donc ce serait intéressant de pouvoir l'écouter ici.
OK.
Et je pense aussi à Alexia, que tu connais, je pense, Alexia Iwane, de Omulema,
Mais oui.
qui est experte en personal branding.
Ouais. Exact, exact, exact. Oh, oui, bah oui. Merci beaucoup pour ces deux recommandations. Je vais
Avec
m'atteler à la tâche pour inviter
plaisir.
ces belles personnes parce que je pense que elles vont pouvoir apporter un max de valeur dans le podcast. Trop bien.
Ouais.
En parlant de podcast, comme tu l'as précisé au tout début de notre épisode,
Oui.
tu en as un depuis 3 ans. Moi, il y a toujours une question parce que je suis de nature très curieuse et aussi parce que j'ai envie que les personnes qui nous écoutent, qui pourraient hésiter à lancer un podcast, puissent se rendre compte que le podcast peut avoir plein de places différentes dans sa vie, dans son business, dans son projet. Donc, quelle est la place de ton podcast, toi, aujourd'hui, dans ta vie, dans ton business?
Je peux dire que c'est mon canal de communication principal. Et aussi que ça me permet à la fois de gagner en visibilité,
OK.
en notoriété et en crédibilité, et de démontrer mon expertise et de créer du lien avec les personnes qui m'écoutent. Je trouve que c'est tellement enrichissant, humainement parlant. Et professionnellement aussi, j'ai appris à faire tellement de choses techniques que j'aurais jamais imaginé pouvoir faire avant. Et ça m'ouvre tellement d'opportunités, même si c'est pas quelque chose qui va être rémunérateur, par exemple, immédiatement, quoi. Ce sont des opportunités, ne serait-ce que des partenariats,
Oui.
ne serait-ce que des invitations dans d'autres podcasts. Voilà. C'est vraiment se créer des opportunités et créer aussi des occasions pour parler à des personnes avec qui on n'aurait jamais eu l'occasion de parler si on n'avait pas le podcast, quoi.
Trop bien. J'adhère et j'adore ta réponse. Merci. Merci beaucoup, Lauriane, pour cet épisode de podcast, pour la full valeur que tu as apportée. Le meilleur de tes liens sera en description de cet épisode. N'hésitez pas à nous dire à quel point vous avez apprécié cet épisode et surtout, si vous n'avez pas encore lancé votre mailing list, votre newsletter, on vous attend. Dites-le nous, nous sommes très curieuses et on espère surtout vous avoir aidé à passer à l'action aujourd'hui. Lauriane, tu reviens évidemment quand tu veux nous parler de tout ce que tu as envie de nous parler qui pourrait aider nos audiences respectives. C'est un vrai plaisir de t'avoir dans mes oreilles et devant mes yeux puisque j'ai la chance de te voir. Merci beaucoup.
Merci à toi, Justine.
À très bientôt.
À bientôt.
Bye bye. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de ne pas manquer les prochains épisodes et de ne pas louper votre réveil business. Si vous avez des idées, des suggestions ou un mot d'amour à me partager, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des étoiles. Ça m'aide vraiment à rendre visible le podcast en plus de réchauffer mon cœur. Je vous retrouve au plus tard dans le prochain épisode ou tout de suite sur Instagram au nom de Réveille ton bise. Ciao, ciao!